Radio Okapi.
L'ouverture de l'information judiciaire contre Constant Mutamba, c'est ce que demande à l'Assemblée nationale le procureur général près la Cour de cassation. Le ministre de la Justice est soupçonné d'organiser un détournement de 19 millions de dollars dans l'affaire des 39 millions destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Près de 400 bus importés dans le cadre du programme gouvernemental Esprit de vie restent bloqués au port de Matadi au Congo central depuis l'année 2023. Ces bus commandés par l'État congolais ne sont toujours pas dédouanés, faute de paiement aux services compétents des frais de transport et d'entreposage. Alphonse Paloukou, DG des établissements à Maison du Miel à Goma et président des apiculteurs du Nord Kivu, est l'invité de ce journal. Il appelle le gouvernement à appuyer davantage le secteur de l'apiculture. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzitu-Kabambi. Notez d'abord que le Sénat devra se prononcer aujourd'hui sur la levée ou pas des immunités du président de la République honoraire et sénateur à vie, Joseph Kabila, poursuivi pour crimes de guerre et complicité avec l'AFC M23. Le bureau de la Chambre haute du Parlement invite les sénateurs à prendre part à la plénière tout à l'heure à 14h pour la présentation et l'adoption du rapport de la commission spéciale mise en place par la plénière jeudi dernier. Cette commission, composée de 40 membres, a examiné le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation contre le sénateur Michel Longuepo et celui de l'auditeur général des FRDC sollicitant la levée des immunités de Joseph Kabila. Au cours de la plénière de ce jeudi, les sénateurs vont procéder au vote à bulletin fermé après le débat général sur rapport de la commission spéciale sur la levée ou pas des immunités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Le ministre de la Justice est lui aussi dans le collimateur du procureur général près la Cour de cassation. Firmin Vondé saisit l'Assemblée nationale par un réquisitoire pour demander l'ouverture de l'information judiciaire contre Constant Mutamba, soupçonné d'organiser un détournement de 19 millions de dollars dans l'affaire 39 millions destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Après la lecture du réquisitoire du procureur au cours de la plénière d'hier mercredi, l'Assemblée nationale a mis en place une commission spéciale en vue d'auditionner et le procureur et Constant Mutamba. Michel Kifindangoy.
À en croire le président Vital Kamerhe, l'Assemblée nationale ne sera jamais un obstacle à la justice pour qu'elle fasse son travail dans la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Vital Kamerhe.
Je vais être saisi par le procureur général afin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre Constant Mutamba, actuellement ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux.
De quoi le procureur général près la Cour de cassation reproche-t-il concrètement au ministre de la Justice, Jacques Joly, rapporteur de l'Assemblée nationale.
La société Zion a ouvert le compte un jour après un virement de l'ordre de 19 900 000 dollars américains qui a été effectué sur ordre du ministre d'État. Ministre de la Justice, ces faits paraissent constituer l'infraction de détournement de deniers publics.
Conformément à la Constitution et au règlement intérieur, si l'Assemblée nationale autorise l'audition du ministre de la Justice et que sa culpabilité était établie, le procureur général près la Cour de cassation devrait introduire un nouveau réquisitoire sollicitant la levée des immunités de Constant Mutamba.
Pendant ce temps, le ministre de la Justice dont il est question, Constant Mutamba, a inauguré hier un bâtiment moderne qui va abriter le nouveau palais de justice de Kalemie au Tanganyika. Ce bâtiment a été construit par le PNUD dans le cadre du programme conjoint des Nations Unies pour l'appui à la réforme de la justice avec le financement du gouvernement suédois. Pour le ministre, ce nouveau palais de justice doit rassurer les justiciables. Constant Mutamba, dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
Que ces palais puissent aider également à améliorer la qualité de notre justice. Que le peuple du Tanganyika, le peuple congolais, puisse se retrouver dans la distribution de la justice ici à Kalemie et ici dans la province du Tanganyika. Il ne faudrait donc pas que le peuple évite de fréquenter ce palais. Ça doit être un palais qui rassure les justiciables. parce qu'il est construit pour les justiciables. Et cela dépendra de votre attitude, dépendra de votre comportement au quotidien. Donc chaque acte que vous poserez, vous devriez vous rassurer que cela conforte les attentes de la population. Ce palais doit donc constituer l'abri pour ceux dont les familles n'ont pas de nom, comme on dit. Pour ceux qui n'ont pas des moyens financiers pour affronter la justice. Ce palais devait être l'abri pour les plus faibles. C'est ici également les lieux d'inviter les magistrats de la province de Tanganyika à bien l'entretenir pour éviter les fissures, pour éviter qu'ils soient délabrés dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui suivent.
Retour à l'Assemblée nationale. Le directeur général de l'Office de voirie et drainage, OVD, y était hier pour répondre à une question orale avec débat dans le cadre du contrôle parlementaire. L'auteur de la question orale, la députée nationale Dolly Chilombo, fustige la dégradation très avancée de la voirie, le bouchage des caniveaux et les inondations dans la ville de Kinshasa. Elle veut des explications de l'OVD. Le DG Victor Toumba évoque le manque de moyens de sa politique comme la raison principale de tous ces problèmes. Une réponse loin de convaincre les élus du peuple. C'est un reportage de Michel Kifin Dangoy, rendu ici par Grâce Amzati.
Dans sa question orale avec débat, le lit de Tchangou veut avoir des réponses claires de l'OVD sur la problématique de la voirie et drainage des eaux, un sujet préoccupant au vu des inondations récentes à Kinshasa et un peu partout à l'intérieur du pays. Dolly Chilombo.
Quelle stratégie mettez-vous en œuvre pour le drainage de la voirie de la ville de Kinshasa?
Dans ses éléments de réponse, le directeur général de l'OVD peint un tableau peu reluisant des voiries de la RDC, avec 85% des voiries revêtues de Kinshasa en état de délabrement très avancé. Le problème de financement et la transversalité de la question de la voirie sont parmi les difficultés, avance Victor Toumba.
1. Inexécution régulière de la loi des finances. 2. Les recours à des mécanismes de financement innovants. Troisième source, la diversification des sources de financement à l'international. 4. La création d'un fonds d'investissement routier.
Des arguments qui n'ont pas convaincu les députés dont les interventions se départagent entre des appels à la démission et à la transformation de la question orale à l'interpellation. L'intervention tardive de l'OVD dans la réhabilitation des voiries, les détournements des fonds destinés aux routes, la durée de vie relativement courte des routes réhabilitées, autant des préoccupations des élus du peuple sur cette problématique importante. Pour rencontrer toutes ces préoccupations, un délai de 48 heures a été accordé au DG de l'OVD, Victor Toumba.
Au sud Kivu, les sinistrés de la pluie du 9 et 10 mai dans le territoire de Fizi, village Kasaba, peinent à reprendre le rythme normal de leur vie. Ils sont sans abri ni nourriture, moins encore des soins médicaux. Mais ils ont été soulagés tant soit peu de la récente visite du vice-ministre de l'Intérieur. Le gouverneur de province Jean-Jacques Pourroussi et l'administrateur du territoire de Fizi, Sami Kalonji Badibanga, étaient dans la suite du vice-ministre à Kasaba. On écoute Sami Badibanga dans ses propos recueillis par Radio Kapi.
Nous avons trouvé même certains cadavres qui gisent encore sous le sol. L'odeur nauséabonde qui nous avait témoigné de l'ampleur de ces désastres humanitaires. Voilà que le vice-ministre de l'Intérieur en charge des affaires coutumières a présenté ses condoléances le plus attristées à toutes les familles qui ont perdu les leurs. Il a expliqué que sa mission était de venir évaluer le dégât causé par cette catastrophe naturelle. Et les familles ont été visitées. Le ministre a promis que prochainement, il y a une forte délégation à la tête la ministre des affaires sociales. On sera à Kasaba, va amener un lot important d'aide, essentiellement de vivres et non vivres, pour soulager tant soit peu cette population qui a perdu presque tout. Nous avons trouvé un village qui essaye de renaître de ses cendres. Le vice-premier ministre, au nom du chef de l'État, a présenté ses condoléances le plus attristées et la délégation est retournée.
400 bus du programme gouvernemental dénommé Esprit de vie sont bloqués au port de Matadi dans le Congo central. L'information est confirmée par le coordonnateur de ce programme du ministère des Transports. Selon Sylvain Lemba Kisindou, c'est depuis l'année 2023 que son institution n'arrive pas à entrer en possession de ces bus pour les mettre en circulation et contribuer ainsi à la résolution des problèmes de transport qui se posent à Kinshasa. Askenzi Biatayoro.
Du mois de mars 2023 au mai 2025, ça fait 2 ans et 2 mois que les 400 bus en question traînent dans l'entrepôt du port de Matadi sans être dédouanés. Sylvain Bakisindou, coordonnateur du programme Esprit des Vies, n'en revient pas. D'après lui, la libération de ces bus nécessite quelques paiements au niveau des douanes. En termes clairs, selon ses partenaires du ministère de Transport, c'est l'État congolais qui a commandé ces lots de bus. Il y revient au gouvernement de payer les frais de transport de ces bus depuis leur embarcation à partir de la Corée jusqu'à Matadi. Et de surcroît, payer les frais d'entreposage, l'unique obstacle qui bloque encore les dédouanements complets de ces bus. Pour Sylva Lemba, le vice-premier ministre et ministre de Transport Jean-Pierre Bemba s'est saisi du dossier depuis le mois d'avril de cette année pour décompter la situation.
Donc dans les jours qui viennent, vous aurez vos 400 bis pour les comptes du programme Esprit de Vie. Il nous reste le paiement des trois factures grâce aux capacités managériales de Jean-Pierre Bemba. Il a déjà écrit au ministre des Finances pour les paiements des factures.
Quelques Quinois informés de la présence de ces bus au port de Matadi se demandent si ces véhicules, une fois arrivés à Kinshasa, vont rouler sous quel état de route.
En économie, la RDC va organiser à Kinshasa le forum économique sur les minerais stratégiques avant la fin de cette année 2025 avec l'appui du Centre du commerce international. C'est l'un des résultats obtenus par le ministre du commerce extérieur au cours de son séjour à Genève en Suisse. Julien Paluku, qui le dit, affirme avoir aussi obtenu la mobilisation des différents bailleurs de fonds pour appuyer l'exécution des projets dont le développement des chaînes de valeur dans plusieurs secteurs. C'était hier à l'issue des rencontres qu'il a eues avec la directrice exécutive du Centre du commerce international, Pamela Koch-Hamilton, et avec la directrice de la CNUSED, Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, Luz Ma de la Mora. On écoute Julien Paluku dans cet extrait proposé par Alain Hirong.
Nous avons vu Madame Maria Luz de la Mora, qui est la directrice au niveau de la division du commerce international de la CNUSED. La CNUSED qui est cet organe des Nations Unies en charge du développement et du commerce international. Ensuite, nous avons vu la responsable numéro 1 du Centre du commerce international, qu'on appelle en anglais International Trade Center, ITC, qui sont les deux organes qui en fait complète l'OMC pour faire ce qu'on pourrait appeler les temples du commerce international. Parce que sans ces trois temples du commerce international, eh bien, il n'y a pas de régulation du commerce à travers le monde. Et donc, nous avons obtenu, et de l'OMC, et de la CNUSED, et du Centre du commerce international, l'accompagnement de la RDC, notamment en assistance technique, en formation de notre personnel, mais également des opérateurs économiques pour les aligner sur les marchés. Parce que nous avons les marchés américains à travers la GOA, nous avons les marchés européens, nous avons les marchés chinois, nous avons les marchés de l'ASLECAF. Alors, les structures que je viens de citer tout à l'heure ont promis d'accompagner la RDC dans la formation de nos opérateurs économiques.
Des violents combats ont opposé les Wazalendo aux combattants de l'AFC M23 hier dans les périphéries du parc national de Kahuzi-Biega, territoire de Kabare. Conséquence, des nouvelles vagues de déplacements ont été enregistrées. Le village de Kabushwa s'est vidé de tous ses habitants. Seuls les combattants de l'AFC M23 sont visibles dans cette agglomération d'environ 10 000 habitants. Ronelyne Tibonera.
Ce sont les rebelles qui ont lancé l'assaut sur la position de Wazalendo retranchée dans le village de Kabushwa, périphérique au parc national de Kahuzi-Biega dans le groupe Madirambi Katana. C'est la première fois que les affrontements entre les deux forces rivales se déroulent dans cette agglomération depuis l'occupation de plusieurs localités du territoire des Kabare par la rébellion au mois de février 2025. Plusieurs habitants ont fui les affrontements pour trouver protection dans des endroits beaucoup plus sécurs. Des sources locales, nous apprenons que les Wazalendo ont raccroché au bout de quelques heures d'affrontement. Les rebelles ont pris possession de Kabushwa, l'une des rares localités du groupe Madirambi Katana, jusque-là épargnée des affrontements. Les exploitants illégaux de ressources naturelles du parc national de Kahuzi-Biega ont également quitté les milieux. Ils auraient pris diverses directions.
Au Nord Kivu, la nuit de mercredi à ce jeudi a été agitée dans certains quartiers de la ville de Goma et du territoire voisin de Nyiragongo. Un jeune garçon a été tué par balle dans le village Bugamba 2, groupement Mouja, territoire de Nyiragongo, par des hommes armés non identifiés qui ont fait incursion autour de 22 heures dans le domicile familial. Selon les sources locales, les malfrats cherchaient le père de la victime qui serait un commissionnaire. Ne le trouvant pas, ils ont tiré sur son fils qui est mort sur le coup. Par ailleurs, autour de minuit, des hommes armés présumés soldats du M23 ont cambriolé quelques familles dans le bloc 5 sur l'avenue Maimoto au quartier Kieshero. Ils auraient emporté de l'argent avant de s'enfuir suite à l'alerte lancée par les voisins. Le territoire de Malembankoulou retrouve sa quiétude dans certains secteurs. Quelques axes routiers autrefois insécures sont de nouveau pacifiées. Conséquence, les activités économiques y ont repris et les prix de certains produits agricoles, dont le maïs, sont revus à la baisse. D'autres détails avec Joël Kayembe, administrateur du territoire de Malembankoulou. Il est joint par Jean Gandou.
Quand j'ai crié pour la question maï-maï dans mon territoire de Malembankoulou, il y en avait nombreux. Ils me contraignaient pour dire que à Malembankoulou, il n'y a pas de maï-maï. Maintenant, voilà aujourd'hui, nous les avons traqués. On a pris beaucoup d'armes qui sont déjà envoyées à la province. Et maintenant, la paix est redevenue. À partir de ça, il n'y a pas encore de tracasserie, surtout du côté Badia, où les maï-maï tués, rançonnés, torturés tous les jours. À partir de cette ouverture, le méca de maïs qui coûtait 6500 est maintenant à 2100, 2200. La population du secteur de Badia vit maintenant dans sa quiétude. Tous ceux qui vivaient dans la brousse, qui craignaient les maï-maï, sont déjà revenus. Nous sommes en train de vivre maintenant une autre atmosphère. La question reste maintenant du côté Kayumba et Museka. Nous allons encore nous battre pour la paix de la population.
Actualité internationale.
Au Bénin, deux hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et le fondateur du parti Le Libéral sont inculpés pour corruption d'agents publics et blanchiment de capitaux. Les faits reprochés concernent des paiements effectués par un chef d'entreprise béninois établi au Canada en échange de facilités pour l'obtention du récépissé de reconnaissance de son parti politique.
L'invité.
Alphonse Paloukou, DG des établissements Maison du Miel à Goma et président des apiculteurs du Nord Kivu, appelle le gouvernement à davantage appuyer le secteur de l'apiculture. Il demande aussi aux investisseurs étrangers à injecter leurs capitaux dans cette culture en RDC. Il intervient comme invité de ce journal en marge de la commémoration chaque 20 mai de la Journée mondiale des abeilles. Il s'entretient avec Billy Van Lutumba.
Monsieur Alphonse Paloukou, bonjour.
Bonjour. Monsieur le journaliste.
Il s'ouvre ce 20 mai, le deuxième forum international d'action pour une apiculture et une pollinisation durable à Djima en Éthiopie. Et cela coïncide avec la journée mondiale des abeilles. Quel état des lieux que pourrait présenter la RDC à une telle rencontre, tenant compte des réalités de la province du Nord Kivu et de vos partenaires d'autres provinces?
C'est l'image d'un pays où il y a plein d'opportunités dans le secteur d'apiculture. Nous avons une immense forêt naturelle primaire, la forêt du bassin du Congo, et une autre forêt qu'on retrouve dans les parcs nationaux, surtout à l'est. Et sur cette terre-là, il pousse régulièrement des plantes qui fleurissent presque toute l'année. Et cela fait qu'il est possible de récolter le miel durant toute l'année. Un exemple concret, c'est la province du Nord Kivu, où il y a 4 récoltes l'année. Donc chaque 3 mois, c'est on récolte du miel. Deuxième image que la RDC présente, c'est la qualité de la variété des abeilles qu'on retrouve, des espèces, les sous-espèces des abeilles qu'on retrouve dans la République démocratique du Congo. Des abeilles dynamiques qui ne sont pas victimes de maladies connues dans d'autres pays ou bien dans d'autres coins du monde. Et c'est une richesse souvent oubliée, mais qu'on retrouve en République démocratique du Congo. Parce qu'en allant de l'ouest vers l'est, on traverse 3 zones agroécologiques qui correspondent à la végétation et qui correspondent aussi aux différentes sous-espèces des abeilles qu'on retrouve. Et cela permet aussi que le pays produise un miel de qualité exceptionnelle au regard de sa végétation.
La province du Nord Kivu faisait face il y a quelques années à des difficultés d'évacuation de la production locale de miel. À ce jour, y a-t-il un versement de la tendance ?
Effectivement, la province du Nord Kivu fait face à des difficultés d'évacuation vraiment des produits locaux de la ruche, le miel et les autres produits. À ce jour, la tendance n'a pas vraiment changé. Parce que avec la partition de la province, c'est vraiment difficile d'évacuer les produits vers les centres de consommation, les centres urbains.
Quels sont les principaux défis auxquels le secteur de l'apiculture est confronté dans notre pays, M. Paloukou?
Les défis sont vraiment énormes pour
pour le secteur d'apiculture dans la province du Nord Kivu et même dans les provinces voisines comme le Sud Kivu, l'Ituri et le Maniema. Le principal défi auquel nous faisons face, c'est d'abord des conditions sécuritaires insupportables. Le deuxième défi, c'est la vétusté du matériel de production. Les ruches ont vieilli et là, ça devient compliqué pour les apiculteurs, ainsi que d'autres matériels comme les tenues qui sont aujourd'hui déchiquetées. Il y a les enfumoirs, il y a d'autres matériels vraiment qui ne sont pas à la hauteur d'une activité vraiment réussie d'apiculture. Et cela aussi est aggravé avec les poudres à canon, les gaz de bombes qui sont émis lors des différentes attaques et les abeilles SM de temps en temps. Un autre défi, c'est les services étatiques. Ils ont abandonné vraiment le secteur. Les apiculteurs n'ont plus personne qui les suit par derrière pour les appuyer en conseil, en technique et en autres.
Dans tout ce que vous faites, quelles sont les initiatives apicoles innovables qui peuvent être concrétisées en termes de voies de sortie ou pistes de solutions?
L'apiculteur A1 de la RDC, nous sommes vraiment unis de l'est à l'ouest, du nord au sud. Nous avons un même langage et nous parlons de l'apiculture congolaise. Et alors, la première initiative innovante, c'est la présence d'un comité de pilotage pour la formalisation de l'apiculture dans notre pays, qui est constitué du secteur privé et des acteurs étatiques. Deuxième initiative, c'est le regroupement des apiculteurs dans les coopératives d'apiculteurs.
Quelles sont les recommandations qui pourraient être formulées à l'endroit des apiculteurs et au gouvernement ?
Nous recommandons d'abord aux apiculteurs d'améliorer les pratiques apicoles, adopter des pratiques et des techniques qui sont capables de nous fournir un miel de qualité produit en République démocratique du Congo. Nous recommandons que le gouvernement congolais investisse, appuie le secteur, formalise le secteur pour inscrire notre pays sur l'échiquier des pays producteurs du miel dans le monde.
Monsieur Alphonse Paloukou, merci.
C'est moi qui vous remercie. Et bonne fête des abeilles à tous les apiculteurs, les amis de la nature et à tous les autres du monde entier.
Et c'est par cet entretien entre Billy Van Lutumba et Alphonse Paloukou, DG des établissements Maison du Miel de Goma, que prend fin ce journal, un journal présenté par Noëlla Luzito Kabambi et mis en onde par Pierre Diassinois, le tout sous la coordination de Élisée Chikota et la supervision de Martin Sebou Jangwe. Merci à vous tous de nous avoir suivis.